je vais vous parler sans filet, sans image. J'en suis absolument désolé. Alors, je vais vous dire des choses que vous connaissez sans doute. Hein, ce que j'ai à vous dire n'est pas follement original. Ce qui était peut-être plus original, c'était les images, mais je ne vais pas vous faire regretter. Hein. Donc, le mot vampire n'a fait son apparition qu'en 1725. Hein, c'est relativement récent dans l'histoire, dans un rapport concernant une affaire survenue au village de Kizilova, en Serbie. Pourtant, la croyance en des êtres extraordinaires, démons, divinités ou morts vivants, capables de sucer le sang des mortels, est à peu près aussi ancienne que l'humanité. Elle est par ailleurs universelle, puisqu'on la retrouve dans toutes les civilisations et à toutes les époques de l'histoire. On peut donc s'étonner qu'il ait fallu attendre le XVIIIe siècle pour trouver enfin un terme générique, un larcène, désignant les suceurs de sang. Le vampire tel que nous le connaissons à travers la littérature et le cinéma, celui de Dracula et autres, est quant à lui un mythe européen d'origine chrétienne qui s'est développé à partir du XIe siècle et de notre ère. Donc je vous propose d'explorer ce que j'appellerai d'abord la préhistoire du vampire, puis l'évolution historique du mythe en Europe, et de terminer enfin par un rapide panorama de la littérature et du cinéma. Ça sera une visite américaine, bien sûr, parce que parler de tout cela en une demi-heure, c'est un peu une gageure. Alors, 6000 ans avant notre ère, les Assyriens, les Babyloniens craignaient l'Ekimou, j'avais une belle image, véritable, mais je ne vais pas le dire à chaque fois, pour ne pas vous faire regretter, véritable ancêtre du vampire moderne, qui était un mort-vivant s'attaquant aux humains pour les dépouiller non pas vraiment de leur sang, mais de leur énergie vitale. Et la divinité nocturne assoiffée de sang, Lilithu, qui était également une divinité babylonienne, qui devait devenir plus tard, bien des siècles plus tard, la Lilith de l'Ancien Testament, qui est, comme vous le savez sans doute, la première femme d'Adam, hein, c'est pas Ève, la première femme d'Adam. On sait que les Aztèques offraient à leur dieu le sang des victimes qu'ils leur sacrifiaient, et les Aztèques craignaient particulièrement la Civitateo, je ne garantis pas la prononciation, fantôme d'une femme morte en couche qui s'attaquait aux enfants pour leur sucer le sang. La mythologie gréco-latine est très riche en divinités sanguinaires, dont les plus connues sont les Lamies, les Empuses et les Stryges. Alors Lamia, j'avais une image, fille du roi Belos, était aimée de Zeus. L'épouse de Zeus, Héra, pour se venger, fit périr ses enfants, et la pauvre Lamia devint un monstre à queue de serpent qui, par dépit, se mit à tuer des enfants. Donc la cible des premiers vampires, c'était essentiellement les enfants. Donc on donna le nom de Lamie à des génies féminins qui s'attaquaient de préférence aux jeunes garçons pendant leur sommeil pour leur sucer le sang. Ampusa, fille d'Hécate, était un monstre aux pieds de bronze qui pouvait séduire ses victimes en prenant l'aspect d'une jeune fille. On appela Ampuse des créatures nocturnes qui séduisaient les jeunes hommes afin de les dépouiller de leur énergie vitale. Les Stryges étaient des démons féminins à corps d'oiseau qui enlevaient les nourrissons pour les dévorer ou leur sucer le sang. Dans le nord de l'Europe, les Saxons, les Normands et les Celtes avaient eux aussi leur divinité prédatrice. Chez les Vikings, par exemple, les Berserkers étaient des guerriers qui buvaient le sang de leurs ennemis pour acquérir leur force. Au Danemark, on craignait la Mara, dont le nom est à l'origine à la fois du mot français « cauchemar » et de l'anglais « nightmare », qui veut dire aussi « cauchemar ». Et en Irlande, le Dair Dhul était une divinité maléfique qui séduisait les mortels pour leur sucer le sang. Sur les 5 continents, on trouve ainsi des croyances très anciennes en toutes sortes de démons, suceurs de sang ou se nourrissant d'énergie vitale. On rencontre de telles créatures en Asie. Les vampires pullulent en Asie, comme le Shaanxi des Chinois, le Kappa des Japonais, les vampires de Malaisie, la déesse Kali qui suçait le sang, des Indiens, en Afrique, en Amérique du Sud, comme les vampires chiliens, en Amérique du Nord, chez les Inuits, et même chez les aborigènes d'Australie. Donc on trouve des créatures suceuses de sang absolument dans toutes les civilisations, et ça c'est un fait tout à fait extraordinaire. Alors je vais passer maintenant à un type de vampire qui nous est tous plus familier, qui est le vampire européen, c'est-à-dire le comte Dracula et ses cousins. Alors, le vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu d'une tradition européenne qui remonte, en fait, comme je l'ai dit, au XIe siècle. Lors du concile de Cahors, en 1031, l'évêque évoqua ce qui est sans doute le premier cas de vampirisme attesté en Europe. Un chevalier de son diocèse, mort excommunié, sortait la nuit de sa tombe pour harceler les membres de sa famille. Il en suçait pas le sang, mais il est harcelé. De nombreux cas de ce genre étaient ensuite rapportés dans les îles britanniques au XIe et XIIe siècle par des chroniqueurs. Ces chroniqueurs écrivaient en latin, et donc comme le mot vampire n'existait pas, eh bien ils employaient le terme de sanguisugae pour désigner ces défunts récalcitrants. La plupart de ces défunts récalcitrants suçaient le sang, d'où ce terme de sanguisugae qui veut dire sangsu en fait. Et pour mettre fin à la malédiction, eh bien, on exhumait le corps et on lui transperçait le cœur avec une épée et ensuite on le brûlait. Et on retrouve exactement ce genre de rituel dans les pays d'Europe de l'Est au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors, pour des raisons assez obscures, que je perce pour lesquelles je n'ai pas vraiment d'explication, ce genre de croyance a complètement disparu en Europe occidentale à la fin du XIIe siècle, sans laisser de traces dans l'imaginaire. Vous savez sans doute qu'il y a eu des loups-garous en France, hein, et qu'il y a une tradition du loup-garou qui s'est maintenue, mais il n'y a pas de tradition du vampire. Si on parle de vampire en France aujourd'hui, c'est par le biais, évidemment, des pays de l'Est de l'Europe. Hein. Donc il n'y a pas eu de tradition. Alors est-ce que c'est l'Inquisition qui en est la cause, hein, étant donné que l'Inquisition punissait de façon extrêmement dure tous ceux qui propageaient des superstitions, c'est fort possible. Puis, il y avait la chasse aux sorcières, etc. Donc, pratiquement, le vampire disparaît d'Europe occidentale au XIIe siècle. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce type de croyance fait sa réapparition deux siècles plus tard, au XIVe siècle, en Europe centrale et particulièrement dans les pays de langue allemande. Alors, pour désigner ces prédateurs morts-vivants, on emploie le mot de Nachtseher, morts-vivants qui mâchaient dans leur tombe, c'est curieux ça, qui mâchaient dans leur tombe et qui provoquaient à distance la mort de leurs victimes. Donc il ne fallait pas se promener près d'un cimetière où on entendait mâcher dans les tombes, hein, parce qu'on risquait d'avoir des tas d'ennuis. Et puis, il y avait aussi des Blutsauger, alors Blut, vous reconnaissez la racine Blut du sang, qui eux, carrément, suçaient le sang des morts. Alors cette superstition a continué à s'étendre vers l'est de l'Europe, et au XVe siècle, des pays comme la Hongrie, et surtout les pays slavophones comme la Pologne, la Bohême et la Russie, sont à leur tour atteintes par ce genre de croyances. Au sud de l'Europe, elle a envahi les Balkans, et les Balkans sont une région très riche en vampires, puis la Grèce, la Valachie, la Transylvanie, la Moldavie, la Bulgarie, l'Arménie et enfin la Grèce. Alors en Grèce, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y avait des vampires qu'on appelait vrikolakas en grec, qu'on a francisé en broukolakes. Au début, les broukolakes étaient parfaitement inoffensifs. Il suffisait de faire une prière pour le repos de leur âme, pour leur rendre la paix. En fait, c'était des âmes en peine, hein, mais des âmes encore, des âmes qui avaient une existence matérielle. Et puis, peu à peu, les broukolakes, par contamination sans doute avec les croyances des pays slaves, les broukolakes se sont mis à sucer le sang à leur tour des mortels, et ils sont devenus de véritables vampires. Alors, au XVIIe siècle, la peur des vampires est devenue une véritable psychose collective dans les pays slaves. Dans les Balkans, l'exécution des vampires se faisait souvent en public et en présence de l'armée autrichienne, puisque la Serbie, les pays balkaniques faisaient partie de l'Empire austro-hongrois, Et donc, les soldats autrichiens assistaient médusés à ce genre de choses. Et l'empereur lui-même, d'ailleurs, avait envoyé des médecins, des théologiens sur le terrain pour essayer de savoir ce qu'il y avait derrière cette croyance des vampires. Et c'est là qu'on a écrit des traités en latin où, pour la première fois, on a employé, au XVIIIe siècle, on a employé le mot vampire. Alors, au siècle des Lumières, le triomphe de la raison, bien sûr, a mis fin à ces croyances. Voltaire et Rousseau, en particulier, ont condamné très violemment ces superstitions d'un autre âge, en disant que c'est quand même scandaleux qu'au siècle des Lumières, on ait pu croire à des choses pareilles. Et le pape lui-même a réfuté l'existence des vampires. Il a même publié une bulle, c'était vraiment un sujet sérieux. Il a publié une bulle pour condamner l'existence de vampires et considérer ça comme une hérésie. Dans les régions les plus isolées de la Roumanie, la croyance aux vampires s'est perpétuée jusqu'à la fin du XXe siècle. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en cette première décennie du XXIe siècle, elle ait complètement disparu. Je vous renvoie à une excellente étude de Johanna Andrzejczko, Où sont passés les vampires, qui a été publiée en 1997. Johanna Andrzejczko est une sociologue d'origine roumaine, comme l'indique son nom, qui est allée en Roumanie à l'époque de Ceausescu et qui a pris un agra, qui s'est promenée dans les régions les plus reculées de la Roumanie et qui a recueilli des témoignages absolument délirants sur la persistance de la croyance aux vampires. Elle a eu d'ailleurs énormément de risques parce que la Securitate, la fameuse police politique, pourchassait ce genre de croyances à l'université de Bucarest en particulier. Tout ce qui concernait les croyances aux vampires était absolument interdit au public. Seuls les universitaires avaient droit d'accès à ces ouvrages. Alors j'en arrive maintenant à... je vais très vite, parce que je n'ai pas d'illustration. J'en arrive maintenant à ce qui vous intéresse peut-être davantage, qui est le vampire dans la littérature et le cinéma, parce que c'est évidemment très actuel, et c'est sans doute la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que c'est la littérature et le cinéma qui, en définitive, ont donné un élan nouveau à ce personnage qui datait donc de la nuit des temps. Donc ce n'est que 23 ans après l'apparition du mot « vampire » dans les langues occidentales que le personnage est enfin entré dans la littérature d'imagination. Bon, il a fait une entrée très discrète. Il est entré grâce à la poésie, un court poème de l'allemand Heinrich August Ossenfelder intitulé « Der Vampir » ou « Le vampire ». Mais il a fallu, c'est un poème d'une dizaine de vers, c'est vraiment une narration très modeste, et il a fallu attendre la fin du siècle pour que la poésie allemande s'intéresse vraiment au vampirisme. La poésie allemande s'est inspirée beaucoup plus des chansons de gestes médiévales et de la mythologie gréco-latine que de la tradition balkanique des vampires, parce que c'était pas très connu à l'époque en Europe. Alors Bürger, en 1773, publie sa célèbre ballade Lenore, où c'est pas un vrai vampire, Lenore, c'est l'histoire d'un chevalier mort au combat qui vient chercher sa fiancée pour l'emmener au royaume des enfers sur son destrier. En revanche, Goethe a écrit un poème, un long poème narratif, La fiancée de Corinthe, qui est beaucoup plus proche du mythe du vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il raconte l'histoire d'une jeune fille de Corinthe qui, après sa mort, vampirise son jeune amant. Donc le malheureux passe une nuit d'amour avec elle. Et puis, il apprend au petit matin que les baisers de sa chérie sont mortels et le pauvre sera vampirisé. Alors, les romantiques anglais étaient très intéressés par la poésie allemande et ils se sont emparés à leur tour de ce thème comme Robert Southey dans Calabar le Destructeur en 1801, Paul Ridge dans Christabel en 1816, Keats dans La Belle Dame sans Merci et Lamia, publié en 1819, et le véritable poète qui était le plus intéressé par le thème des vampires n'était autre que Byron. Byron, qui avait parcouru la Grèce, qui avait parcouru les Balkans, qui connaissait très bien ses légendes, et qui y fait de nombreuses allusions en particulier dans Le Giaour, son long poème Le Giaour, publié en 1813. Et c'est Byron qui, indirectement, a inspiré le premier récit en prose impliquant un vampire. Parce que, finalement, le vampire n'est entré dans la littérature en prose qu'en 1819, donc c'est très tardif. C'est... Bon, alors, on connaît l'histoire de ce premier récit en prose. Ayant décidé de faire un voyage en Europe continentale, Byron avait engagé comme secrétaire et médecin personnel un jeune Écossais d'origine italienne, John William Polidori. Et à Genève, il avait loué la villa Diodati, qui se trouve au bord du lac, qu'on peut voir, mais qu'on ne peut pas visiter aujourd'hui. Il avait retrouvé ses amis Shelley, et un soir, une après-midi particulièrement pluvieuse, lorsqu'il s'ennuyait ferme, il avait proposé à ses amis d'écrire un récit fantastique, un récit à faire peur, et comme vous savez sans doute, un seul des protagonistes a réussi à relever le pari, c'est Mary Shelley, qui a écrit son Frankenstein, le Prométhée moderne, hein, qui est devenu le roman à succès que l'on sait. Alors Byron, lui, avait l'intention d'écrire une histoire de vampire, un roman, qui se situait en Angleterre et en Grèce. Et il avait essayé d'en écrire quelques pages, il en a écrit un fragment, et puis il a renoncé purement et simplement à écrire son histoire. Mais d'abandonner son projet, il en a donné les grandes lignes à Polidori. Et lorsque Polidori, qui détestait cordialement Byron, est rentré en Angleterre, eh bien, Polidori a eu l'idée lui aussi d'écrire une histoire qui ressemble furieusement, d'ailleurs, au roman inachevé de Byron. D'ailleurs, il a été bien puni parce que cette histoire, qui s'appelait Le Vampire, a été publiée sous le nom de Byron. Il y a même un universitaire qui a dit que Le Vampire était probablement l'œuvre de Byron la plus éclatante, comme quoi les universitaires peuvent dire des bêtises. Donc, Polidori, malheureusement, était mort dans la misère, hein, alors que sa courte nouvelle a eu un succès absolument phénoménal dans toute l'Europe. On en a fait des romans, on en a fait des mélodrames, des comédies. Il y a même eu un opéra à partir du vampire de Polidori, l'opéra de Marchner. Hein. Quant à Nodier, ben Nodier a écrit une suite au vampire de Polidori qu'il a intitulé Lord Goodwin. Je prononce à la française volontairement parce que c'est la tradition d'écrire Raven avec un W en français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc la mode du vampire était lancée. Hein. La mode du vampire était lancée, elle a eu énormément de succès en France. Hein. La France a été vraiment le premier pays où il y a eu une mode du vampire. Énormément de romans, complètement oubliés aujourd'hui, ont été publiés à l'époque, des romans et de nouvelles, comme La mort amoureuse de Théophile Gautier. Alors ça, c'est un must, hein, il faut absolument avoir lu ça. C'est certainement la meilleure nouvelle qui ait jamais été écrite sur le thème. La baronne trépassée de Ponceau du Terrail en 1853. La vampire dans les drames de la mort de Paul Féval en 1862. Et je pourrais en citer encore bien d'autres. Alors, dans ces romans, le vampire est souvent un personnage romantique, soit une femme fatale, soit un séducteur sans scrupules. Et donc, la femme fatale utilise la séduction pour entraîner ses victimes dans leur mort, et à la fin de l'histoire, évidemment, elle connaît un châtiment exemplaire. Alors, En Angleterre, pardon.
Monsieur Marigny, oui. Si vous voulez bien que les personnes après vous rejoignent,
oui.
Peut-être finir.
Ah, si vous voulez, oui.
Rejoignent parce que vous avez sûr. Monsieur.
Ah, bien sûr. Ah. Je n'ai même pas. J'ai combien. Il me reste combien de temps. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, c'est pour
bon,
ça.
Bon, mais j'arrive à la fin. Hein.
Vous avez épuisé 10 minutes sur votre prochaine intervention.
Avec plaisir. Non, mais là, je vais aller assez rapidement maintenant. Hein. Oui, alors donc, j'en arrive à Dracula. Dracula est paru en 1897. Bram Stoker a fait du vampire une sorte d'antéchrist qui défie les lois divines et humaines. Là, je vais aller très vite. Hein. Le personnage de Stoker est un conte orgueilleux et solitaire. Je ne vais pas trop insister sur lui. Alors, au XXe et XXIe siècle, j'arrive à la fin, il est pratiquement impossible de dissocier la littérature du cinéma et de la télévision, car ces deux formes d'expression sont interactives. Le Dracula de Stoker n'aurait probablement pas eu la postérité qu'on lui donnait s'il n'avait été constamment adapté à l'écran. C'est grâce au cinéma que le conte vampire s'est imposé dans l'imaginaire collectif. Alors, vous savez qu'il y a eu énormément de films comme Nosferatu de Murnau, le Dracula de Browning, le cauchemar de Dracula de Terence Fisher que vous pourrez voir au cinéma Vauban, avec Bela Lugosi, Christopher Lee, et le dernier le plus marquant, c'est le Dracula, évidemment, de Coppola en 1992. Voilà, je vais très vite maintenant. La littérature et le cinéma vampirique ne se réduisent pas à Dracula. Ils ont connu un développement spectaculaire avec des temps forts qui correspondent souvent à des périodes de crise. Bon, je n'insiste pas. Je dirais simplement qu'un roman qui a marqué la guerre froide, c'est « Je suis une légende » de Richard Matheson, ou qui imagine que tous les habitants de la Terre sont devenus des vampires après une catastrophe nucléaire. C'est très intéressant. Et je crois que la révolution culturelle du vampire s'est faite avec le roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, en 1976, qui nous présente des prédateurs d'un genre nouveau, Louis et Lestat, qui sont des êtres d'une beauté et d'une intelligence supérieure. Alors, les années 80 sont très riche en romans de vampires, je passe. À notre époque, le personnage du vampire, j'arrive à la fin, est omniprésent au cinéma, à la télévision, dans la publicité, dans la littérature. La série Twilight de Stephenie Meyer a pulvérisé tous les records de vente dans le monde entier, et les 5 films qu'elle a inspirés ont attiré des centaines de milliers de téléspectateurs. Vous savez qu'il y a énormément maintenant de séries télévisées. Et dans la dernière décennie du XXe siècle, au début du XXIe siècle, s'est développé un courant littéraire très prisé des adolescents, auquel les éditions Bragelonne ont donné le nom de Beatly. Les héroïnes en sont soit des chasseresses de vampires, comme Buffy, ou Anita Blake, de Laurel Hamilton, soit des vampires féminins, comme Betsy Taylor, de Mary Janice Davidson. À notre époque, la littérature et la télévision ont des liens très étroits. C'est ainsi que la série Buffy a inspiré des dizaines de romans et que, inversement, les romans de la communauté du Sud de Charlene Harris ont inspiré la série télévisée True Blood. Parmi les romans américains en série, il faut citer encore la trilogie de Deborah Harkness, ici présente, dont le premier volume, Le Livre perdu des sortilèges, est paru en livre en France en 2011, et la biblique qui était jusqu'ici un phénomène purement américain est devenue s'empare maintenant du domaine français, puisque de jeunes romancières françaises se sont lancées dans la course, comme Marika Gallman dans son roman Rage de dents, et Cassandra O'Donnell, qui, malgré ce pseudonyme irlandais et française, avec sa trilogie Rebecca Keane. Donc le vampire, là je termine, connaît actuellement une fonction précédente. On a vu paraître d'excellents films comme Laisse-moi entrer, par exemple, de John Alvist, ou L'être aux ténèbres de Charles Bousquet, et d'excellents films aussi comme 30 jours de nuit, First et Scotland. Et il faut espérer que cet élan se poursuivra dans les années à venir. De toute façon, le vampire est immortel et il a l'éternité devant lui, ce qui n'est pas mon cas. Merci.